Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut François. Merci de prendre du temps aujourd'hui pour parler product et marketing et un peu l'interaction de ces deux mondes. Donc un sujet assez intéressant et d'actualité dans un contexte où le business aussi revient un peu en force dans tous les domaines et en particulier dans le monde du produit. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et puis de nous présenter ce que tu fais aujourd'hui.
Eh ben, bonjour Thierry. J'ai commencé en fait dans une école de commerce, j'ai fait du marketing, c'est ma formation première. J'ai commencé mes premières expériences dans le marketing puisque j'étais chef de produit chez les télécoms, chez SFR et chez Bouygues Télécom. Et mes premières expériences, mon premier CDI, ça a été de faire du merchandising, donc une mission purement marketing qui est de bien mettre en avant les produits, etc. La spécificité du poste, ça a été que c'était sur la boutique internet. Et en fait, c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans tout ce qui peut être numérique, digital. Et en fait, j'en suis jamais sorti. Plutôt une bonne nouvelle, c'était un bon tournant à prendre à l'époque. On a découvert à ce moment-là un peu l'étendue que pouvait avoir Internet. La boutique Internet, à l'époque, c'était pas grand-chose. On voit aujourd'hui que la plupart des ventes, même des télécoms, se font pas forcément en boutique, mais sur la boutique Internet. Et donc, du coup, c'était un bon virage à prendre. Par la suite, j'ai pu me rapprocher encore et développer finalement le métier de product owner. À l'époque, j'étais vraiment plutôt chef de produit digital. Il y avait des product owners, les équipes tech étaient un peu loin, et j'ai voulu réduire un peu tout ça. Et j'ai eu la chance d'être embauché chez Mythic, qui était une entreprise qui était déjà pas mal avancée dans tout ce qui était... on ne parlait pas de product management, mais en tout cas, il y avait des PO. Et des organisations où il y avait un PO et des équipes de développement qui travaillaient en direct. Et ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment exactement ce que je cherchais, parce que j'ai donc pas de formation technique, mais un esprit un peu mathématique, et j'aime bien comprendre comment fonctionne le site internet, les applications aussi d'ailleurs, et surtout comprendre pourquoi on ne peut pas faire telle chose ou telle chose, et pourquoi il vaut mieux faire cette chose-là de cette manière-là et pas de cette manière-là, et ça c'est hyper intéressant de travailler avec les techs pour ça. Et donc c'était vraiment ce que je recherchais. À l'époque j'ai travaillé sur une problématique qui était assez liée au marketing, puisque c'était toute la partie landing page, et donc création de compte avec chez Mythic, des gros enjeux d'acquisition de trafic. Il y avait des millions d'euros qui étaient dépensés tous les mois sur Facebook Ads, par exemple. Et l'enjeu de mon équipe, c'était d'optimiser finalement les budgets qui étaient dépensés en conversion, de manière à ce qu'on dépense des euros sur Facebook et on en convertit le maximum en termes de création de compte pour faire rentrer chez Mythic. Et ça, c'était vraiment instructif parce qu'il y avait un stakeholder qui était hyper intéressant, qui était assez imposant dans la boîte, puisque la boîte fonctionnait vraiment sur l'acquisition de trafic. Mythic, c'était à l'époque, on le décrivait un peu comme une baignoire, mais une baignoire percée. Parce qu'en fait, si tu fais bien ton boulot, les gens s'en vont, puisqu'ils ont trouvé leur... si tu fais mal ton boulot, ils s'en vont, et si tu fais bien ton boulot, ils ont trouvé l'amour, donc du coup, ils s'en vont aussi. Et donc, du coup, il fallait toujours avoir un robinet qui était ouvert. Et donc, à l'époque, il y avait une vraie stratégie de on met de l'argent sur la table pour aller acquérir du trafic. Et donc, des gros enjeux sur tout ce qui était création de compte et conversion pour ces dépenses marketing. J'ai continué après chez Mythic, j'ai fait d'autres missions qui étaient plus liées à l'algorithmie et au produit une fois que l'utilisateur était connecté. Mais ça a un peu moins trait avec le marketing, si ce n'est que chez Mythic, on travaillait avec le marketing sur tout ce qui pouvait être tone of voice. Ou créer des features qui pouvaient être mises en avant dans des campagnes de com qui étaient assez intéressantes. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis Head of Product chez La Centrale. On a en ce moment une grosse actualité marketing chez La Centrale, puisqu'on a décidé de remettre la marque au goût du jour, de remettre la marque en avant en communication, qui étaient des choses qu'on n'avait plus fait depuis à peu près un an. Donc on a des gros enjeux de marketing, aussi bien sur du branding, mais on en parlera peut-être après, mais sur du SEO aussi, et sur du marketing performance également.
Très, très clair. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas La Centrale ou qui auraient oublié ce que c'est, ouais.
Alors déjà, si effectivement, vous, comme moi, ou si vous habitez Paris, vous n'avez pas forcément besoin d'une voiture, et donc effectivement, ça peut être la majorité des personnes qui peuvent nous écouter. La Centrale, c'est un site de petites annonces. qui fait des voitures d'occasion. Grosso modo, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'autres choses. Ça a commencé il y a 50 ans en étant un magazine, vraiment papier. Et à l'époque, ça faisait un peu tout et n'importe quoi comme petite annonce. C'était Le Bon Coin, mais en papier. Il y a une spécialisation qui s'est faite sur les voitures aujourd'hui. On est toujours en concurrence avec Le Bon Coin. C'est notre gros concurrent sur tout ce qui est petites annonces. Et c'est un business assez intéressant parce qu'on doit être une marque B2C pour attirer du monde, du trafic, pour que les gens consultent les annonces, cherchent des voitures et éventuellement contactent les professionnels. Mais en fait, on a un business B2B également, parce que nos vrais clients, c'est les concessionnaires qui vont acheter ce qu'on appelle, nous, des places de parking sur la centrale pour pouvoir mettre en avant leur véhicule. Donc, c'est un business assez intéressant où il faut à la fois travailler le sales, qui est hyper important, et je sais que vous avez déjà fait des podcasts là-dessus, mais où l'aspect, finalement, quand même, marketing est hyper important, parce que si on n'a pas ce marketing, si on n'a pas cet aspect B2C, finalement, on n'arrive pas à contenter nos concessionnaires qui n'ont pas de trafic chez eux.
Ouais, donc un problème toujours pareil de poule et d'œuf sur ces sujets-là pour pouvoir avoir les deux flux en fait qui arrivent.
Et des deux satisfactions à faire aussi en ménageant le chou et la chèvre, en se disant que les sales vont dire que le pro a envie de voir ses coordonnées très très haut dans la page, détail par exemple. Et nous qui allons dire d'un point de vue utilisateur, en fait ces informations sont pas très intéressantes, il va plutôt falloir mettre en avant. Je dis des bêtises, mais les caractéristiques du véhicule, est-ce que c'est une bonne affaire, le prix, etc. Et que c'est ça qui va devoir être dans la page le plus haut. On est toujours sur la guerre du scroll, et de savoir où est-ce qu'on en est dans la page et où est-ce qu'on met les informations. Donc faut ménager toujours un petit peu le chou et la chèvre.
Très, très clair et hyper parcours hyper riche. C'est ce que je trouve intéressant avec ton parcours aussi, quand on avait échangé en off, c'est aussi l'aspect très SEO que tu as pu avoir, que tu as aussi aujourd'hui dans tes missions actuelles. Et puis le fait que du coup là tu sois head of product, mais du coup avec un gros background aussi en marketing, et donc d'où l'intérêt d'échanger sur ces sujets, sur le sujet de comment mieux intégrer les problématiques marketing quand tu fais aussi du produit. Donc pour prendre cet angle-là pour commencer, toi aujourd'hui dans cette stratégie de redynamiser la marque, de retravailler un petit peu ces sujets branding aussi au niveau de la centrale, aujourd'hui, quelle est un peu l'organisation produit que vous avez, celle peut-être que vous aviez auparavant et que vous avez réussi à transformer ou que vous êtes en train de transformer? Quels sont un peu, tu vois, les différentes, le mode d'organisation que vous avez par rapport à ça et les enjeux actuels à ce niveau-là?
Alors en fait, moi je suis arrivé il y a un an chez la centrale, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais en même temps ça paraît maintenant assez loin par rapport au travail qui a été fourni. Et à l'époque, l'équipe marketing n'était pas non plus très fournie. Donc en fait, il y a d'abord une première teneur qui a été de mettre en œuvre une vraie équipe marketing avec des recrutements de CMO, de head of marketing également. Donc ça, c'était la première étape. De convaincre nos actionnaires sur le fait que ça valait le coup d'investir sur la marque et de remettre de l'argent sur un renouvellement de la marque. Le site, quand je suis arrivé, était assez, entre guillemets, vieillot. Il y a eu une première refonte qui a été faite et on a réinvesti pour faire bientôt une prochaine refonte d'identité de marque. La refonte l'année dernière était plutôt sur l'aspect mobile friendly et UX, avec une identité de marque qui avait été un peu refondue mais qui n'était pas finalement assez aboutie par rapport à ce qu'on voulait faire, et un vrai travail depuis l'arrivée de cette équipe marketing sur une vraie plateforme de marque, une vraie nouvelle identité graphique qui est en train d'être mise en place. Et sur l'aspect organisationnel plutôt côté produit, ce qu'on a fait, c'est justement la création de poste pour laquelle je suis arrivé chez la centrale, qui est d'avoir un head of product un peu dédié à toute cette équipe marketing. Bien entendu, l'équipe marketing travaille également avec d'autres head of product qui sont plutôt dans le produit. Notre cœur de business, c'est la page de recherche, c'est la page de détail. Et sur ces pages-là, il y a des enjeux, typiquement des enjeux SEO, et c'est ces équipes-là qui vont le mettre en œuvre. Néanmoins, pouvoir avoir un interlocuteur qui soit l'interlocuteur privilégié pour toutes ces problématiques et qui puisse rediriger ensuite aux bonnes équipes, c'était également quelque chose qu'on voulait mettre en place. Et c'est pour ça que moi je suis arrivé il y a un an à peu près pour commencer à travailler tout ça et pouvoir être un interlocuteur principal.
Du coup, donc assez clair pour bien voir toi ton périmètre au niveau produit sur la centrale, par rapport à ce que tu disais, donc la page là de la landing page, ouais, avec la recherche versus les autres segments, c'est quoi toi le périmètre produit que tu as sur ça?
Alors on a trois trailles principales côté B2C. On va avoir une équipe produit qui va être plutôt concentrée sur tout ce qui est B2B et la création d'outils pour les pros. Côté B2C, on a trois tribes. On a une tribe qu'on appelle Discover, sur laquelle je suis, sur laquelle je reviendrai après. Une tribe Buy, qui est donc tout le funnel d'achat. Et donc toute la découverte pour un utilisateur des véhicules qui sont mis à disposition par les concessionnaires jusqu'à la prise de contact avec le concessionnaire et qui est le business principal de la centrale. Et on a une tribe, celle qui elle concerne plutôt la vente de véhicules pour des utilisateurs, sur laquelle on a deux leviers qui sont à la fois le dépôt d'annonces par un particulier qui peut déposer son annonce comme sur le bon coin et à ce titre remonter dans nos moteurs de recherche et qui peut être découvert par des utilisateurs, et également la partie ce qu'on appelle le rachat express, qui est plutôt cette fois-ci de la vente à un concessionnaire dans laquelle les arguments vont être que le concessionnaire se charge de tout, donc c'est plus rapide, il n'y a pas besoin d'avoir de paperasse. Par contre, c'est vrai que le concessionnaire va avoir une marge et donc on vendra un peu le véhicule moins cher. Ça, c'est les tribe qui vont, on va dire, avoir les objectifs business in fine, la fin du tunnel, quoi. Et la tribe Discover, elle vient se mettre au-dessus, elle est plutôt dans l'entrée du tunnel. On va avoir comme mission d'attirer des utilisateurs, d'attirer des nouveaux utilisateurs, et pour ça, on va avoir des leviers qui sont à la fois de travailler avec le marketing, des leviers SEO, SIA, brand, etc. On va avoir aussi toute une partie service, et cette fois-ci, on va aussi les travailler avec le marketing, parce qu'on ne va pas créer des services pour faire plaisir, mais on va créer des services qui sont plébiscités par des utilisateurs. Donc, on va attirer des nouveaux utilisateurs, dans la mesure du possible, les qualifier. Et pour nous, les qualifier, ça va être de savoir s'ils sont plutôt dans une démarche de vente de leur véhicule ou une démarche d'achat de véhicule. La plupart du temps, ils sont d'ailleurs dans les deux, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à peut-être qu'on fait peut-être pas très bien aujourd'hui, mais qu'il faut qu'on arrive à mettre plus en œuvre. C'est-à-dire que je vends une voiture, mais c'est parce que je veux en acheter de nouvelles, ce qui se passe très régulièrement. De qualifier ces utilisateurs et de les rediriger le plus efficacement possible vers les deux autres tribes, qui cette fois-ci, elles, vont véritablement se focusser sur les convertir pour de bon. Donc, j'attire quelqu'un avec un service qui permet d'estimer la valeur de mon véhicule. J'essaye de savoir si cette personne veut vendre ce véhicule ou si elle s'intéresse au prix du véhicule parce qu'elle veut en acheter un. À partir de là, je lui fournis l'information qu'il est venu chercher. J'essaye d'ailleurs de l'opt-in au passage et de lui faire créer un compte et de le rediriger vers le bon parcours qui va bien avec les bonnes informations. Si jamais j'ai récupéré des informations, de les transmettre à l'autre partie du tunnel pour qu'eux convertissent aussi le mieux possible.
Hyper, hyper clair, et du coup ça me fait penser, donc, ça m'emmène sur le second point qui est là sur 2024 par rapport à, tu vois, les fonctionnalités dont tu parlais que vous avez déjà mais sur laquelle vous continuez à travailler, j'imagine, par exemple de pouvoir estimer le prix de ton véhicule. Comment tu vas réussir, comment tu travailles cette partie vraiment roadmap fonctionnelle ok, il nous faut cette fonctionnalité qui est nécessaire d'un point de vue utilisateur final, et en même temps derrière ta stratégie marketing sur, par rapport à ce que tu disais, être capable de pouvoir ensuite le convertir en fonction du besoin de l'utilisateur, ouais. Qu'il soit à la fois de vente ou de rachat ou les deux. Comment tu fais cohabiter en fait ces deux mondes, ou aujourd'hui quelles sont les méthodes que vous avez en place, soit que vous êtes en train de mettre en place par rapport à ça?
Bah, c'est hyper intéressant parce que jusqu'à présent, quand la centrale communiquait, elle communiquait beaucoup sur le fait que chez la centrale, on va trouver un véhicule à acheter, on va trouver plein de façons qui facilitent la vie de l'utilisateur pour trouver le bon véhicule qui va bien. Et là, dans les réflexions qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt de se servir justement de services qu'on peut avoir comme ce qu'on appelle la cote, c'est le nom du service chez nous, comme étant un vrai levier, comme une marque dans la marque, comme un vrai levier d'acquisition sur on a ce service-là qu'on rend à l'utilisateur. Ça va nous servir à attirer des gens, et là on va se parler plutôt de problématiques de branding, de marketing, de se mettre sur le marché de l'estimation pour attirer des gens. On va se parler en termes de marketing également de CRM, puisque ce service-là doit nous permettre de qualifier des utilisateurs, et qualifier des utilisateurs et essayer de récupérer leur email ou au moins une création de compte, de manière à les faire rentrer dans un process de vie chez nous qui l'amènera, on l'espère, à convertir soit sur de la vente, soit sur de l'achat. Et c'est ces leviers-là qu'on met en place aujourd'hui. Typiquement, quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment, justement de restreindre un peu ce service-là d'estimation de véhicules à la création d'un compte. En tout cas, c'est un test qu'on essaye de faire pour voir si on arrive à faire créer des comptes de manière à faire rentrer des gens dans tous les funnels de CRM. Et sur la partie branding, justement, on a optimisé, on a refondu ce parcours-là de manière à ce que déjà il soit aux normes de l'identité graphique qu'on est en train de faire, même si ça c'est un travail qui se fait sur tout le site et pas que sur ce service-là, mais il ne faut pas l'oublier, ce service-là, il ne faut pas se concentrer que sur le core business qui est le classified et donc les petites annonces et le contact, il faut aussi inclure tous ces services-là dedans. Voir avec le marketing quels éléments peuvent être développés. Là, il y a tout un travail d'analyse de nos concurrents, de voir quels sont nos atouts par rapport à ça. Et on en a. Typiquement, on a beaucoup de data, parce qu'on a énormément d'annonces, et notre service d'estimation se base sur les 6 mois de petites annonces qu'on a eues dans le passé, sur lesquelles on va pouvoir estimer. Et donc, grâce à toute la data qu'on a, finalement, on rend des services à l'utilisateur.
Sur ce dernier point de justement s'appuyer sur la donnée que vous avez et également définir un peu la stratégie derrière marketing par rapport à ça, comment vous définissez également les différentes métriques qui vont vous dire oui, ça c'est un succès ou pas, par rapport à ce que tu expliques pourrait paraître de l'extérieur évident, de se dire du coup tu vas fournir un service mais pas non plus trop l'ouvrir tant que tu n'as pas souscrit à la plateforme, ce qui permet de faire rentrer ton utilisateur comme ça dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi de l'existant par rapport à ça, c'est que tu vas changer aussi peut-être des choses qui fonctionnaient déjà. Et donc, les équipes qui s'est tourné ça avant, peut-être vont te dire, attends, maintenant tu vas complètement modifier ça, donc tu vas avoir des pertes à un endroit pour potentiellement du gain futur. Donc toutes ces choses-là, pour réussir à embarquer aussi les équipes existantes et faire avancer dans la vision voulue, il va falloir être capable de mesurer pour montrer justement les différents impacts et voir ensuite ajuster en fonction de ce que vous mesurez. Donc comment un peu tu travailles cette problématique de métrique et également après de répartition, tu vois, des rôles entre une équipe marketing très orientée vers la connaissance du marché versus une équipe produit plus sur la partie aussi mise en œuvre et réalisation de ces nouvelles fonctionnalités ou modification de l'existant.
Ouais, il y a deux choses là-dedans qui et d'ailleurs qui répondent aux deux équipes, c'est que chacune des équipes doit avoir ses leviers de mesure. Chez le marketing, on va plutôt se parler de brand awareness ou de notoriété. Et ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais ce qui sera intéressant peut-être de développer avec eux, c'est de se dire quelle est la notoriété de la cote parmi tous les outils d'estimation de prix de véhicules en France, et de voir si en le mettant en avant, en retravaillant le produit, on arrive à augmenter cet indicateur-là. Et ça, c'est un indicateur qui est vraiment purement branding. D'un point de vue marketing, on va mettre le CRM dedans, on va avoir tout ce côté création de compte. Et donc, la création de compte n'est pas l'aboutissement final. Il faut créer le compte, mais il faut ensuite en faire quelque chose. Et donc ça, ils vont avoir des métriques de création de compte et puis après d'optimisation de leur base et de comment on fait revenir les gens. Côté produit, nous justement, on a la problématique, j'allais dire inverse, c'est un peu ce que tu dis, c'est que jusqu'à présent, en fait, on n'est pas obligé de créer un compte pour accéder à cette information. Néanmoins, nous, on sait que ça peut être un vrai levier pour aller chercher une information qui est très intéressante, qui est la création de compte. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on va mettre en place un test, et le test le plus basique possible, qui est de fermer et de dire, maintenant c'est fermé, il faut que tu crées ton compte, et de voir. En fait, aujourd'hui, ça n'existe pas dans l'écosystème de la centrale, donc on n'a pas cette information de combien de pourcentage de personnes vont véritablement créer un compte. Donc on va mettre en place ce test, puis on verra bien déjà quel est le premier résultat. On n'est pas à l'abri d'avoir une très bonne surprise et que 70%, 90% des gens créent leur compte et accèdent à l'information. On ne sera vraisemblablement pas là-dedans. On peut avoir une très mauvaise surprise et avoir d'un seul coup 2 personnes, 5% des gens qui créent leur compte. Et là, on se plombe un peu aussi, nous aussi, parce que oui, c'est bien de créer un compte, mais finalement, ces gens-là, ce que tu disais aussi est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ils accèdent à une information. Et dans notre métier aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont cette information, mais on essaie de les rediriger déjà vers les funnels de vente et d'achat, comme on le disait. Donc si on appauvrit le nombre de personnes qui arrivent sur l'information, on appauvrit de facto les funnels qu'on est en train de servir. Donc il va falloir qu'on trouve l'équilibre et qu'on trouve le chiffre, ou en tout cas, qu'on voit ce qui se passe véritablement en prod, qu'on se dise si on en est satisfait ou pas. Et puis si on n'en est pas satisfait, de se demander comment on poursuit dans cette démarche-là. On a déjà quelques idées qui sont peut-être d'être moins restrictifs, peut-être de mettre en place des services un peu plus premium, c'est-à-dire continuer à apporter la même valeur qu'on a aujourd'hui, mais apporter plus de valeur pour des utilisateurs qui créeraient un compte. Mais le vrai test qu'on va faire, et qui va véritablement arriver là dans pas longtemps, c'est de mettre en prod, de faire un A/B test, de regarder combien de personnes créent un compte, et à partir de là, de prendre la bonne décision. Et ça, c'est vraiment plutôt d'un point de vue produit. On aura une discussion avec le marketing, parce que peut-être que le marketing serait très satisfait que seulement 20% des gens créent un compte, parce que eux, ça leur fait déjà exploser la base d'utilisateurs qui a créé un compte. Et peut-être que nous, on n'est pas satisfait, parce que derrière, on a des arguments pour dire que il n'y a que 20% qui accèdent à ça. Et là où avant, je faisais un certain nombre de dépôts d'annonces à partir de là, aujourd'hui, je n'en fais plus que ça. Et du coup, ça appauvrit in fine l'écosystème, puisqu'on a moins d'annonces qui sont posées dans le site.
Et du coup, donc très 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 clair, du coup, en, d'un point de vue, tu as mentionné avant, un petit peu avant, les métriques côté market, ce côté marketing qui vont suivre. Côté produit, comment tu les. Quelles sont toi tes métriques en fait de succès par rapport à ça et comment ensuite tu vois l'interaction entre les demandes puisque. Là, typiquement, sur ce sujet que tu viens de détailler, il y a quand même un fort aspect aussi, évidemment, marketing sur l'intérêt de ces fonctionnalités. Et d'un point de vue produit, du coup, quels vont être pour toi ce que j'essaie de comprendre, c'est comment tu travailles de manière à la fois distincte, marketing, product, mais quand même ensemble à ce niveau-là. Quoi.
Bah, y a une grande métrique sur laquelle on se retrouve tous qui, de toute manière, est le trafic. Et ça réconcilie tout le monde et pour le coup on a tous envie de travailler là-dessus et ça va toucher ça à du marketing performance, donc de l'achat d'espace publicitaire, ça va toucher à du SEO, ça va toucher à du CRM, ça va toucher à du brand et là-dessus on se retrouve tous parce que si eux font bien leur travail de leur côté, si nous on fait bien le travail de notre côté, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a une problématique là-dessus qui d'ailleurs va être plutôt l'équipe marketing va peut-être s'occuper de mettre en place des leviers qui vont permettre d'accéder, d'attirer du monde sur le site. Nous, il y a un truc qu'il faut qu'on regarde quand même, c'est du coup les taux de rebond qui sont associés. En tout cas, dans notre équipe à nous, c'est les gros métriques qu'on suit, c'est vraiment le trafic, le taux de rebond par source de trafic, par device, pour s'assurer que, en fonction de ce qui est mis en œuvre et en fonction de ce que nous on fait aussi, parce que parfois on fait des maps qui n'ont rien à voir avec des problématiques marketing, qui sont des maps purs produits ou purs tech. À vérifier que là on n'augmente pas un taux de rebond parce que dans ces cas-là on est en train peu de jeter de l'argent par les fenêtres puisque donc,
pardon juste sur deux MEP mise en prod et les taux de rebond, c'est-à-dire que l'utilisateur qui arrive et qui repart tout de suite donc,
exactement je viens et je fais même pas je fais une seule page dans le site et je m'en vais et dans ces cas-là si on a réussi à attirer un site mais qu'à ce moment-là on a introduit un bug pour une raison X ou Y, mais dans ces cas-là, on est un peu en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Et c'est limite d'ailleurs plutôt être en mesure de se dire on a introduit ce bug-là, stop tes campagnes de marketing performance. On aura du mal à stopper les autres campagnes parce que de l'achat publicitaire, télé, des 4x3 dans le métro, ce genre de choses, on peut pas dire du jour au lendemain t'arraches les affiches et t'arrêtes de diffuser les spots publicitaires. Donc bon, dans ces cas-là, on a plutôt intérêt à juste réparer très très vite le bug. En revanche, par contre, sur un levier comme le marketing performance qui, lui, a potentiellement la main pour arrêter des campagnes assez rapidement, là, on peut quand même lui dire d'arrêter d'investir. C'est vraiment s'il y a un bug majeur. Si jamais le taux de rebond est en augmentation, parfois, ça peut d'ailleurs être un effet tout à fait logique du fait de faire venir plus de trafic. Et tu fais venir plus de monde, forcément, il y a des gens un peu moins qualifiés. Ça, c'est des choses que je voyais typiquement chez Mythique. Finalement, chez Mythique, on avait limite... on avait vraiment deux typologies d'utilisateurs. Il y avait ceux qui venaient par du Facebook Ads, qui étaient extrêmement nombreux, mais qui avaient un taux de conversion in fine de moins de 10%, donc moins de 10% des gens que je faisais venir créer un compte à la fin. Et on avait des gens qui ne venaient pas par des sources de trafic payantes et qui, eux, avaient un taux de conversion de 50%. Par contre, ils étaient beaucoup moins nombreux.
Oui, là-dessus, effectivement, d'où ce que tu disais aussi tout à l'heure, si jamais tu fais ton A/B test sur les personnes qui sign up, mais que tu en as moins, mais au final, celles qui sign up, elles sont aussi plus qualifiées. Il y a toujours la mesure.
Il faut mesurer la campagne, il faut voir la petite chose qu'on fait, mais la remettre dans un contexte qui est peut-être un peu plus gros. Et voilà.
Donc par rapport à ce que tu viens de dire, donc cette métrique un peu globale sur laquelle vous vous alignez, qui est celle du trafic entre market et produit, du coup, en ligne de fond, ce que je voyais aussi quand même côté produit, il y a la partie fonctionnelle de ce que tu dis là. Si t'as un bug ou ce genre de choses, est-ce que par exemple vous mesurez, je sais pas moi, les nombres de bugs sur la mise en prod? Est-ce que ce sont des métriques qui font partie un peu de ce que vous regardez au niveau produit ou comment vous mesurez-vous la performance, tu vois, côté produit du coup?
Alors c'est purement effectivement plutôt produit, product and tech. On n'aura pas tendance à reporter de ce genre de chiffres à l'équipe marketing. En tout cas, c'est pas ça la teneur principale de nos discussions. Nous, de notre côté, on essaye bien entendu d'en avoir le moins possible. Quand il y en a, de les fixer le plus rapidement possible, de s'en apercevoir le plus rapidement possible. Finalement, c'est plus ça l'enjeu. C'est pas tant... Oui, c'est pas très bien d'introduire un bug, mais bon, à la rigueur, si on le détecte tout de suite, c'est déjà bien.
Oui, et puis des bugs, il y en a toujours. La question, c'est effectivement la capacité
à
corriger.
C'est la capacité à le voir très rapidement et à le corriger le plus rapidement possible. Parce qu'après, tu peux introduire un bug qui est très compliqué, c'est pas de chance, mais surtout, il faut le détecter le plus rapidement possible, de manière toujours à optimiser justement tous ces investissements qu'on peut faire sur le marketing par ailleurs. Et aujourd'hui, on le mesure principalement à la main. C'est-à-dire vraiment, On fait une MEP, une mise en production. On introduit une nouvelle fonctionnalité, ou en tout cas, on introduit quelque chose sur la production, et on va mesurer chacun ses KPI. Hein, typiquement, donc l'équipe Discover va se focusser sur tout ce qui est trafic et taux de rebond. Mais si jamais on se parle, par exemple, d'une mise en prod, d'une nouvelle fonctionnalité dans la page détail, le KPI principal, ça va être ce qu'on appelle, nous, l'intention de contact. C'est donc le nombre de clics sur « je veux appeler » ou « je veux envoyer un mail ». Et ça, c'est vraiment à la charge des PM de regarder presque en live la performance.
Très clair là-dessus. Du coup, je voudrais rebondir sur ce dont tu mentionnais pour revenir sur le trafic, sur la partie SEO. Et l'importance du SEO dans ce type de produit et un peu comment donc le référencement naturel. Après, on a parlé aussi du SEA, donc il y a le référencement payant. Mais ce que je trouve intéressant en creusant le référencement naturel, c'est qu'il y a différentes stratégies. C'est du long terme, c'est des choses qui se construisent dans la durée. Là où le payant, c'est bien configurer les choses, mais ensuite, une fois que c'est lancé, t'allumes un bouton et ça arrive, quoi, entre guillemets. Sur le référencement naturel, du coup, c'est quoi un peu les... Quelles sont les différentes choses que tu as pu apprendre tout au long de ton parcours jusqu'à maintenant qui peuvent aussi faire le lien entre du coup toujours du marketing et du produit par rapport à ça? Comment bien optimiser le travail à ce niveau-là, puisque on sait que quelques petites modifications des fois techniques peuvent avoir des impacts importants sur le référencement naturel, dans le bon comme dans le mauvais. Donc un peu ces sujets-là, comment vous les adressez aussi aujourd'hui à la centrale?
Alors là-dessus, j'ai pas mal d'expérience, en tout cas parce qu'on en a reparlé chez Mythic. Typiquement, chez Mythic, il y avait de ces personnes qui investissaient énormément de millions sur Facebook, mais effectivement une stratégie SEO qui était un peu délaissée, donc quelque chose qui a été remis en place chez Mythic. J'y ai été confronté au SEO également dans une expérience dont j'ai pas parlé en introduction, mais j'ai travaillé pendant 3 ans chez Doctissimo dans le groupe Unify, donc un truc vraiment média. Pour lequel le SEO, c'est le référencement naturel, c'est le sujet principal, parce qu'en fait, le business du média, c'est d'attirer du trafic de manière entre guillemets gratuite, parce qu'on a souvent tendance à dire que le SEO, c'est gratuit, en fait, ça l'est pas du tout, notamment parce qu'il y a beaucoup de projets et de features à développer, et donc ça, c'est de l'investissement, c'est du temps de dev, c'est du temps de PM, c'est de l'investissement. En tout cas, dans tous les médias, le SEO, c'est quelque chose d'hyper important. Effectivement, on le retrouve chez la centrale aussi, puisque de la même manière, il y a eu un réinvestissement sur le sujet du SEO cette année, qui fait partie de toute cette remise en œuvre du marketing dont on a parlé déjà. Et pour revenir sur le sujet du SEO en tant que tel, c'est un des stakeholders qui est peut-être le plus compliqué à manœuvrer parce qu'il n'y a pas d'effet immédiat. Et dans une démarche très produit, très héroïste, très je fais des rails et j'essaye d'avoir quelque chose de très rationnel quand j'engage du temps de dev et du temps de PM sur mes roadmaps, c'est compliqué de discuter avec le SEO, hein, qui sont au demeurant des gens très, très sympas, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que c'est impossible ou très compliqué d'avoir un engagement sur un effet produit par une demande qui peut être, il y a tellement de variétés de sujets avec le SEO, mais j'en ai une autre. Par exemple, dans un CMS, faire en sorte qu'il soit impossible de mettre une image qui n'est pas 1200 pixels de large. Pourquoi ? Parce que Google préfère quand il y a des visuels de qualité, et donc du coup va privilégier des contenus qui ont des visuels de 1200 pixels de large. Dans le CMS, je fais en sorte qu'on ne puisse pas publier un article si jamais la photo n'est pas assez large. Très bien, mais en fait, ça, on n'a aucune garantie que ça permettra de rapporter plus 100 000 visiteurs dans un mois. Et donc, du coup, mon dev qui va me coûter 3 jours de dev, donc 3 jours de TJM, et on peut se dire, dans ces cas-là, on prend un TJM à 600€, c'est 1800€. Je ne sais pas combien je vais dépenser ces 1800€ sans avoir la garantie que ça me rapporte vraiment de l'argent. Après, on peut avoir quand même des intuitions, et on a des experts SEO qui sont là pour ça, c'est leur métier, c'est d'essayer de comprendre comment... en France, c'est principalement Google, donc on a tendance à faire le rapprochement, ouais. L'amalgame en France. En France, Google, c'est 93% de part de marché, donc du coup, quand on travaille du SEO que sur un marché français, on se parle que de Google. Le reste, bon, si ça marche pour Google, la plupart du temps, les autres doivent faire pareil. Il y aura peut-être des différences si on travaille un peu à l'international. Mais donc du coup, ces personnes-là essaient de comprendre comment Google fonctionne, se renseignent énormément. Il y a des vraies communautés SEO, hein, et pour le coup, je m'en suis intéressé, je me suis rapproché d'une... Enfin, je me suis inscrit à un Slack qui s'appelle What the fuck SEO et qui justement parle de ça. Et c'est des gens qui échangent beaucoup sur ce que Google peut mettre en œuvre, sur des résultats. Il y a des gens qui font des tests, qui partagent leurs résultats de... Bah tiens, j'ai essayé de mettre en œuvre, justement, reparlant de cette histoire de photo, et je me suis aperçu que un mois plus tard, bah, j'avais réussi à redresser ma courbe de trafic. Donc voilà, et ce genre de choses peut permettre à des experts SEO de s'engager. Ça, c'est quand même mieux d'un point de vue produit. Si on arrive à avoir un expert SEO qui est capable, on va pas lui demander de signer avec son sang sur un volume de visites en plus que va nous rapporter cette feature. Mais c'est vrai qu'on a besoin, côté produit, d'avoir quand même cette priorisation des sujets du point de vue SEO.
Très, très très clair et du coup par rapport, pour rebondir à ça, sur les communautés, enfin, c'est vrai qu'il y a une personne qui est maintenant en train de changer de voix, mais qui a été le pape du SEO en France, Olivier Andrieux, avec le livre la Bible du référencement, enfin, du référencement naturel, avec son site Abondance qui était un peu le précurseur de ça, qui à l'époque, tout début de d'Internet, en fait, avant que Google ait les algos en place et que même n'existe, il avait appelé son site Abondance parce que, en fait, les sites qui commençaient par les premières lettres de l'alphabet étaient mieux référencés, en fait. Du coup, c'était pour ça qu'il avait appelé Abondance. Je trouve ça assez marrant de voir aussi l'évolution, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet ultra complexe.
Qui va se complexifier encore plus là avec tout ce qui est Bard, etc.
Gen AI et ces sujets-là. Et d'ailleurs là-dessus, est-ce que vous avez une stratégie média aussi sur la centrale par rapport à ça? Donc pour les personnes moins averties sur la partie SEO, c'est-à-dire de créer du contenu pour pouvoir apparaître sur plusieurs recherches auprès de Google et derrière indirectement amener à reconvertir les utilisateurs vers le site de base, mais au travers de contenus qui peuvent être annexes, comme, je sais pas moi, comment changer une roue de secours, des sujets qui touchent autour de... Est-ce que c'est une stratégie que vous avez ou...
Alors, il y a deux éléments là-dessus. C'est que ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans le groupe La Centrale, il y a également Caradisiaque. Et Caradisiaque, c'est un site de médias, pour le coup, qui est dédié à l'univers de la voiture, qui fait 6 millions de visiteurs uniques par mois. Ce qui est déjà quelque chose et qui fait que, de facto, on est obligé d'avoir une stratégie média, ne serait-ce que pour ce site. Et là, en ce moment, on est typiquement en train de travailler pour Caradisiaque sur l'optimisation du levier Discover, Google Discover, qui marche très très bien et dont on s'aperçoit que on a une partie qui est vraiment du référencement naturel dans les moteurs de recherche, qui, on le sait, en plus, va être peut-être mis en péril un peu avec toutes les évolutions que fait Google pour mettre ses contenus à lui, ou finalement choisir ce qui apparaît en top de page. Et donc, du coup, ce fait, d'un point de vue référencement naturel, d'avoir la première position aujourd'hui n'est plus une garantie d'avoir autant de trafic qu'avant. Et donc, Google Discover fait partie des leviers qui peuvent nous aider à ça. Google Discover, c'est tout ce qui peut être Google Actu, et donc des contenus que Google va vous proposer quand vous êtes en recherche d'actualité, qui va s'adapter à vos goûts, il y a plein de règles, et c'est marrant parce que y a des règles pour le référencement naturel, il y a des règles pour Google Discover, il y aura certainement demain des règles qui vont arriver avec tous ces IA et Bard, et qu'il va falloir se réapproprier. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup, c'est aux États-Unis, on verra quand est-ce que ça va arriver en France. Et pour revenir sur la question principale qui est aujourd'hui, est-ce que sur La Centrale on a une stratégie édito? On en a certainement eu, pas très poussée, et on va certainement faire ça beaucoup mieux dans l'année qui va arriver, justement parce qu'on s'aperçoit que y a des places à aller chercher sur des thématiques. T'as tout à fait raison, changer une roue, mais parfois il y a même de l'actualité, c'est tout bête. Je continue de regarder encore un peu Doctissimo de temps en temps. Et ils ont fait un papier sur le fait d'avoir la bonne trousse de secours quand on prend la voiture et qu'il y a de la neige. Et bon, ils réagissent sur de l'actualité parce qu'il y a de la neige sur les routes. Et donc, du coup, mais en fait, La Centrale pourrait totalement traiter le même sujet parce que ça a trait à la voiture. Il y a une stratégie éditoriale qu'il faut qu'on mette en place, c'est sûr. On a déjà un peu de contenu, on a déjà des conseils, notamment des conseils autour de bien vendre et de bien acheter, qui est le cœur de métier de La Centrale. Donc là-dessus, on a un vrai... Et puis en plus, on se pose en tant qu'expert. Sur ce domaine-là, ce qui peut nous différencier d'ailleurs de notre gros concurrent qui est Le Bon Coin, parce qu'en fait Le Bon Coin est très très fort pour faire des petites annonces, mais il fait des petites annonces de tout. Nous, on est très très fort pour faire des voitures et on fait des petites annonces. Donc on a un vrai point de réaffirmer notre expertise, et le levier édito va nous servir à ça autant qu'à aller chercher effectivement du trafic via du SEO. On est actuellement en train de travailler la stratégie éditoriale et les rubriques qui vont être qui vont être mis en place. Mais ouais, c'est un vrai sujet sur la centrale pour le moment.
Hyper, hyper intéressant, hyper clair comme, comme retour. Donc c'est vrai que j'avais pas fait le lien. Tu m'en avais parlé en off en plus avec Cara Diziak aussi. Donc tu fais bien de le rappeler. Par rapport du coup sur 2024, là, vos plus gros enjeux à toi, équipe produit avec équipe market, tu les vois où sur cette collaboration et un peu les choses qu'il va falloir craquer. Quelles sont pour toi un peu les problématiques que tu anticipes ou sur lesquelles tu as déjà, on est quand même en fin janvier, donc qui ont déjà bien commencé quoi.
Bah, on a toute cette partie stratégie éditoriale qu'il faut qu'on cale à la fois avec l'expert SEO, parce que le but du jeu c'est quand même d'aller se positionner dans les requêtes de Google, à la fois avec le responsable branding, parce qu'on a toute cette idée de développer de l'expertise, de l'image de marque et de répondre un peu. On a lancé une nouvelle campagne de marque qui donc est tout juste à ses débuts, et le claim c'est vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, bah du coup, il faut prouver qu'on s'y connaît vraiment. Et donc, du coup, la stratégie édito peut être là pour ça. Il y a bien sûr d'autres relais dans le produit qui sont, par exemple, une page de détail de la voiture qui est justement très détaillée, sur lequel on va avoir des indicateurs comme le fait que c'est une bonne affaire, qui sont des vrais trucs où on a une expertise parce qu'on fait de la voiture et on sait que ça, c'est une bonne voiture, par exemple. On a des problématiques CRM. On est en train de relancer toute la partie CRM. Et donc, on en est au début avec une migration vers une nouvelle plateforme. Mais on a aussi toutes ces problématiques justement de mettre des leviers pour aller chercher de la création de compte. C'est bien beau d'avoir une très belle plateforme de CRM qui fait plein de choses. Si jamais on n'a pas d'opt-in, ça ne sert à rien. On va avoir des problématiques, je pense, très liées au marketing performance. Parce que jusqu'à présent, on était très axé sur de l'achat de mots-clés. Mais... on se dit qu'en se donnant un peu plus les moyens, on va peut-être avoir d'autres leviers à aller actionner. Et là, le produit peut avoir un enjeu qui est justement cette aide à l'optimisation des budgets qui sont investis. Peut-être que sur ces nouveaux leviers, il ne faut pas faire juste de l'achat de... Enfin, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est acheter le mot-clé Peugeot 207. On achète le mot-clé, quand on clique, on arrive sur un listing d'annonces avec que des Peugeot 207. Peut-être que demain, et je ne suis pas expert de ce domaine-là et on va devoir le mettre en place, mais peut-être que demain, il y a d'autres leviers d'acquisition qui vont être actionnables, mais sur lequel le fait d'atterrir sur la page de recherche avec des 207 n'est pas l'optimisation, n'est pas ce qu'on peut faire de manière optimum d'un point de vue produit. Et donc là, il faudra travailler avec eux, ce qu'on appelle les landing pages, les pages d'atterrissage, qui sont en fonction de la campagne, qu'est-ce que je mets comme atterrissage en face pour que ça convertisse le mieux et que du coup, on puisse investir plus possible dans ce levier-là. En tout cas, que ça devienne rentable d'investir ce levier-là. Donc on a tout ça à investir et on n'en a pas encore parlé, mais il y a également dans les problématiques marketing tout ce qui peut être réseaux sociaux. Aujourd'hui, encore une fois, là, il y a un renouveau qui doit être mis en place côté la centrale. Et là-dessus, il va y avoir des enjeux de mise à disposition de contenu. Par exemple, on est sur Instagram, ce qui peut être bien, c'est d'avoir une campagne récurrente qui dise voilà les top 10 voitures de la semaine. Et voilà, et on met des visuels de voitures. Très bien. Mais pour mettre ça en place, il faut un flux qui sélectionne les top 10 voitures de la semaine. Donc ça, il faut qu'on ait une réflexion côté product and tech pour savoir quelles sont les top voitures à montrer et qui doivent d'ailleurs peut-être être optimisées en fonction des clics et de l'interaction qu'il va y avoir sur le réseau social. Et on doit envoyer toutes les informations, donc les photos, le prix, éventuellement les badges, bonnes affaires, les top points forts de la voiture, etc. De manière à ce que sur la plateforme, on puisse créer la campagne. Et ça, on peut le décliner sur tous les réseaux, sur plein de thématiques différentes. On peut penser à de la vidéo, par exemple, faire la même chose, mettre en place un flux qui permette de créer automatiquement une vidéo de la voiture. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place, aussi bien sur la centrale que sur Cara Diziak, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Cara Diziak est sur Facebook, mais n'est pas sur TikTok, par exemple, ou pas sur Instagram non plus. Là-dessus, le produit va peut-être avoir un rôle. En tout cas, là-dessus, on est en attente plutôt de la définition de la stratégie pour voir avec les experts de ces leviers-là comment on peut les aider. On a plus dans une posture de comment on peut vous aider à mieux travailler avec ces personnes-là.
Hyper, hyper intéressant et ça rappelle l'importance justement du produit dans ces sujets de marketing, c'est-à-dire d'être là en tant que catalyseur, de pouvoir permettre de faire les choses ensuite de manière assez automatique, semi-automatique pour pouvoir passer ça à scale, c'est-à-dire que la sélection, etc., si tu devais faire ça manuellement, c'est juste pas gérable, surtout sur les volumes que vous avez. Et donc c'est là aussi où il va venir catalyser, le produit va permettre de cataliser ça et de permettre d'ensuite faire passer à l'échelle. Hyper, hyper intéressant et des bons sujets du coup, une année qui s'annonce bien, bien intense, c'est assez cool là-dessus. Avant d'aller vers les questions de fin d'échange, est-ce qu'il y a un point en particulier que tu aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas trop touché du doigt sur...
Si on fait le prolongement de ce qu'on vient juste de se dire avant, et je pense que ça sera finalement le... C'est un peu le sujet de la discussion, c'est de dire, en fait, tout ça, ça nous amène à nous dire que le marketing doit être partie prenante de la constitution d'une roadmap, et de comment on travaille bien avec le marketing dans cette mesure-là. J'ai vu, moi, des entreprises où, effectivement, le marketing est très compartimenté et arrive plutôt en fin de course en mode « vous avez pas fait ça » et ça a pas marché. La démarche qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt... Et justement, c'est un peu aussi ce poste qui a été créé sur cette équipe-là, et en tout cas d'avoir un interlocuteur principal, c'est justement quelqu'un qui a le temps d'aller préparer avec eux les roadmaps, les quarter planning, ce genre de choses, et de vraiment les intégrer comme partie prenante, comme input, parce que voilà, vous avez vos besoins, on fera peut-être pas tout, on va essayer dans la mesure du possible avec vous de mettre en place cette démarche un peu héroïste, de savoir quelles sont vos priorités, combien ça peut rapporter, et puis du coup après le métier du produit, de faire le gloobie-boulga de tout ça, et puis de sortir une proposition de roadmap qui tiennent pour le product, mais qui tiennent pour la tech, qui tiennent pour le produit aussi, pour le marketing et pour le produit, éventuellement des sales. Enfin voilà, ça c'est le métier du product manager, on n'apprend rien là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le marketing doit être une vraie partie prenante sur laquelle il faut aller récupérer ses inputs pour pouvoir travailler avec eux et construire justement ce qui va bien pour eux, et puis être, comme tu dis, le catalyseur de c'est bien beau, vous pouvez travailler en chambre, dans votre coin, faire vos campagnes de com. Mais c'est quand même mieux si on travaille ensemble, parce que on a beaucoup fait ça, mais par exemple mettre en avant l'application, ça nécessite d'avoir une application qui soit plutôt bien faite. Mettre en avant, chez Mythic, on avait des features comme ça qui étaient finalement presque développées pour pouvoir faire de la prise de parole. J'en ai plus exactement en tête, mais par exemple il y avait des features qui permettaient de faire des enregistrements vocaux et d'aller au-delà de juste le message, etc. Et ça peut être un levier qui permet à la brand de prendre un positionnement différent. Et donc, du coup, ils ont besoin de le mettre dans des roadmaps.
Ouais, c'est aussi intéressant de voir justement comment toi, tu peux, dans une stratégie marketing qui peut être réfléchie côté market, ils viennent te voir ensuite et te dire, on voudrait faire une campagne là-dessus, on a besoin de cette fonctionnalité, combien de temps ça te prend de
la sortir. Et on a vu que le marché n'est pas installé là-dessus. On pense qu'il y a une opportunité de marché à notre chez Mythic, notre angle principal, c'était la relation sérieuse. Et nous, on pense que, et puis on a fait des études de marché qui nous montrent que pour une relation sérieuse, la voix, c'est hyper important. On pense donc du coup qu'il y a un coup à jouer là-dessus si vous nous faites une feature qui permet de prendre la parole là-dessus et d'aller se positionner contre un Happn ou un Adopt qui, eux, sont pas du tout sur ce truc qualitatif. Et nous, voilà, on a l'argument, le produit qui permet de prendre la parole dessus.
Très clair, très clair. Merci pour ce partage. Effectivement, ça recoupe bien avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire comment construire une roadmap ensemble entre marketing et produit, et l'importance en fait de bien collaborer, de casser un peu les silos justement. Ça ne veut pas dire que le travail du product vient remplacer celui du market ou inversement, mais c'est de beaucoup plus collaborer. Et je pense que c'est d'autant plus important dans un environnement qui bouge énormément, très vite. On parlait des canaux de distribution de marketing, tu parlais d'Insta, TikTok, Facebook, LinkedIn, enfin il y en a plein, il y en aura encore plein d'autres demain. Donc pour pouvoir garder cette agilité, je pense que c'est effectivement important de tous essayer de mieux travailler ensemble. Et les différents leviers, les points que tu as mentionnés, je pense que ça va, j'espère en tout cas, parler à des marketeurs et des products qui nous écoutent. Du coup, pour aller vers mes deux questions de fin, donc la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle, en général, tu te retrouves en désaccord avec tes pairs ?
Alors, c'est pas une conviction forte sur laquelle je me retrouve en désaccord. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours voulu le faire et j'ai pas vraiment réussi à le faire. C'est tout ce qui peut être shadow test. On parle souvent dans le produit de cette démarche d'agilité, on veut une voiture, mais on va d'abord construire une trottinette, ça nous permettra de déjà avancer, on connaît bien cette image-là. Et dans ce cadre-là, moi j'ai régulièrement voulu mettre en place des tests où, on fait croire à l'utilisateur que la fonctionnalité elle est là, mais en fait derrière on lui dit « merci de votre intérêt, on note votre intérêt et du coup on va faire tous nos efforts pour développer la fonctionnalité rapidement ». Et en réalité, je trouve ça très très bien sur le papier, en théorie, j'ai toujours voulu l'appliquer et j'ai jamais réussi. C'est pas vraiment un désaccord, mais je pense qu'avoir un peu plus compris maintenant pourquoi, c'est-à-dire que je pense que toute cette approche de shadow test est développée plutôt sur des startups ou en tout cas des produits qui ont besoin de se prouver qu'il y a une appétence marché, Alors que moi, j'ai essayé de les mettre en œuvre dans des groupes plus instaurés, sur lesquels il y a beaucoup de trafic et qui, du coup, peuvent devenir très rapidement déceptifs pour l'utilisateur. Et d'un point de vue marque, on n'a pas envie d'introduire cette déception. Et voilà, j'ai essayé de faire un peu ma réflexion là-dessus et je pense que c'est ça.
Ouais, hyper intéressant. Et effectivement, quand tu as déjà une marque établie, des usages qui sont établis, ça peut être très compliqué de tester des choses. C'est pour ça que c'est compliqué des fois de garder l'innovation. Et parfois, une des méthodes que certains peuvent avoir, c'est de créer en fait des marques annexes sur lesquelles ils vont faire ces tests. Et après, une fois que c'est prouvé, que c'est validé, qu'ils ont essuyé les plâtres avec ces marques annexes qui sont connues de personne, hop, réintégrer les fonctionnalités validées dans la marque, la marque de base, quoi. Mais un bon point là-dessus, effectivement, c'est technique, c'est méthode. Après, c'est toujours à prendre en considération dans le contexte et la taille de la boîte et du marché qui est adressé derrière. Très clair. Et du coup, ma dernière question, c'est un peu les choses qui te nourrissent intellectuellement, qui t'inspirent. Moi, j'aime bien voir comment les personnes réfléchissent.
Alors, bien entendu, j'écoute beaucoup de podcasts, surtout Just Click. non, j'ai écouté pas mal de podcasts produits. J'en ai écouté sur du SEO également, avec par exemple Position Zéro, que j'ai bien aimé. Donc ça, c'est plutôt pour la culture produit. Pour la culture produit, je trouve très intéressant le Slack de French Product, qui est hyper enrichissant, qui permet d'avoir accès à des ressources, accès à des gens qui se posent des problèmes. Moi, j'ai pu par exemple rassembler rapidement ou 3-4 personnes pour parler d'un problème et se dire voilà, on se prend une demi-heure, j'ai une problématique, toi tu l'as rencontré à peu près aussi, parlons-en et puis échangeons, en fait c'est ça l'important. Donc ça, vraiment très très bien. Et après, d'un point de vue un peu moins professionnel, moi je suis assez féru d'histoire et donc j'écoute du coup aussi beaucoup de podcasts historiques, donc à la fois très très loin dans l'histoire, mais pas mal aussi sur les dernières années, le XXe siècle, qui peuvent induire des façons de réfléchir, en tout cas d'avoir des réflexions un peu, même en se disant ça s'est passé comme ça en politique. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu les flashbacks sur la politique et de se dire une entreprise c'est politique aussi. Et de voir s'il y a des choses, s'il y a des liens qui peuvent être faits. Dire qu'on ne peut pas faire un Chirac et aller déboulonner tout le monde dans une entreprise, mais bon, il y en a qui l'ont fait en politique et voilà.
Hyper, hyper intéressant sur les podcasts historiques. Je sais pas, j'ai en tête moi qui m'avait vachement plu Le Cours de l'Histoire. Ouais. Xavier Mauduit, si je dis pas de bêtises. Mais
il y a 2 millions d'histoire. Yes. Bon, après, il y en a vraiment pas mal. Et c'est hyper intéressant.
Top. Après, je pourrais à la limite en mettre dans les notes de l'épisode. Tu m'enverras ça par mail aussi. Merci encore pour ton temps, François, et puis à bientôt.
Merci beaucoup à toi aussi.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.